Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis aujourd'hui avec Jean-Laurent Truc, que je connais un petit peu depuis pas mal de temps, et surtout on le rencontre aujourd'hui parce qu'il vient de publier son premier album en tant que scénariste aux éditions d'Argo. On donnera le titre et toutes les informations à la fin de l'émission. Mais donc c'est avec beaucoup de plaisir que moi j'ai lu cet album très très original. On va parler un peu de l'histoire. Mais avant d'aller plus loin, Jean-Laurent, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ?
Bien Stéphane, bonjour d'abord et bonjour à toutes tes auditrices et tes auditeurs. Je crois que je suis avant tout un journaliste, c'est-à-dire que j'ai derrière moi quelques dizaines d'années de pratique professionnelle en PQR. Donc très jeune, j'ai voulu faire ce métier, choisir ce métier, écrire. J'ai eu la chance d'accomplir au sein de mon journal ou des organes de presse dans lesquels j'ai pu travailler absolument tout, des chiens écrasés, en passant par les reportages, en passant par les chroniques, en passant par l'édito, parce que je suis devenu rédacteur en chef de Midi Libre les 10 dernières années, 12 dernières années avant la fin de ma carrière. Et là-dedans, journaliste, oui, mais journaliste aussi passionné de bande dessinée et d'histoire. L'histoire contemporaine, là je suis mordu depuis mon plus jeune âge, pour des raisons qu'on pourra évoquer, et de bande dessinée aussi, parce que mon premier cadeau, je crois que c'est de... Là aussi, j'étais assez jeune. C'est une belle reliure de Spirou. J'étais un fan inconditionnel de Bugdani, mais ça, là aussi, dans l'album, on peut le voir. Mais surtout de Franquin. Voilà. Je dirais qu'en quelques mots, journaliste et puis histoire et BD.
Donc, c'est ta première bande dessinée. C'est une bande dessinée, l'histoire, donc le titre est Non-Retour. Le sous-titre, c'est Algérie, juillet 1962. La première question que je peux te poser, c'est que fais-tu en Algérie en juillet 1962 ?
Eh bien, d'abord, j'essaie d'en partir. C'est déjà le thème de... Mais surtout, j'y suis depuis 3 ans parce que mon père est militaire de carrière et que lui est en Algérie depuis la fin de 1954. Il s'est parachutiste d'abord, puis ensuite pilote d'avion dans l'aviation légère dans l'armée de terre. Et que Colombéchard était le seul endroit depuis des années où on a pu le retrouver en famille. À savoir que donc moi j'ai pas vraiment vu beaucoup mon père de 54 à pendant 5-6 ans et que quand on a vécu à Colombéchard, il était pilote au centre d'essai en vol qui était une grosse plaque tournante technique d'ailleurs aéronautique et militaire avec Reagan à Amaguir, les bases atomiques pas très très loin. Donc je vis là avec ma mère, avec tous mes frères et mes sœurs, et puis se passe ce qui se passe pour 1 million de gens de Français d'Algérie, il faut rentrer. Et nous, on rentre un petit peu dans la confusion, dans la rapidité et dans la panique, le 2 juillet 1962. Et on doit, là, rejoindre Colombéchard-Marseille par un vol. On va en parler aussi, un vol sur une constellation bourrée hein, de à la fois de rapatriés et de familles de militaires. Voilà.
Oui, parce qu'il faut absolument partir vite, parce qu'on ne sait pas ce qui va vous arriver si vous restez.
Alors, je dirais qu'on a été nettement moins touchés que les populations d'Alger, d'Oran ou des grands centres métropolitains d'Algérie, parce que Béchar, encore une fois, était une zone très, très, très militarisée, c'est-à-dire sous contrôle quand même. Reste qu'à la fin, moi, de ma scolarité, en juin encore, 62, je vais en classe sous escorte, on a des manifestations, on a des bombes qui explose. Enfin, on sait ce qu'est la guerre. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant, peut-être, alors c'est une chance ou pas une chance, j'en sais rien, mais c'est un constat. Moi, je sais ce que c'est que de risquer de perdre son père. On a eu une alerte forte un jour où il a été porté disparu après un crash. Je sais ce que c'est d'entendre des rafales d'armes à feu. Voilà, donc même si je n'ai que 10 ans à l'époque, j'en garde un souvenir très, très, très précis, tout en gardant aussi un très très beau souvenir, un très bon souvenir de cette période à travers ce très très beau pays et cette zone juste à la limite du Sahara qui était une merveille.
Parce qu'on sent bien dans tout le début de l'album, ça tu racontes ça très très bien, avant l'embarquement dans l'avion,
oui.
Que ta mère s'occupe très bien de toi, mais qu'il y a une espèce d'urgence, mais que tout est fait pour rassurer les enfants, pour que tout se passe le mieux. Ça, c'est une chose qui est bien ficelée, je trouve, dans l'album. On sent cette attention et en même temps cette urgence.
Alors, il y avait le fait que, comme je dis dans l'album, et comme dit mon héroïne Béatrice de Lunac, quand on est l'aîné d'une famille nombreuse, on l'est à vie. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais un petit frère qui venait de naître, ma mère l'avait dans les bras. On avait été prévenu la veille, parce que j'ai enregistré maman avant qu'elle, malheureusement, nous quitte l'année dernière. En fait, cet avion n'est pas un vol Air France, on en reparlera peut-être, mais c'est un vol, un Constellation, affrété, ce qui arrive vide, bien évidemment, bon, ben, il n'y avait pas de vol plein à direction de l'Algérie à ce moment-là. On est prévenu, papa nous prévient la veille, papa prévient maman la veille, et les valises, on est sous contrôle militaire derrière des barbelés, des barrières à l'aéroport. La photo qu'on voit aussi à la fin de l'album, elle est prise une heure avant qu'on monte dans le Constellation. Je dirais qu'il y a une tension plus que notable. On a vécu une manifestation quelques jours auparavant avec ma mère à la maison, où il a fallu fermer les volets. Enfin, on va pas revenir sur ce détail-là, mais où, on sentait bien quand même que, oui, que les choses pouvaient mal tourner pour un oui ou pour un non.
Mais c'est quand même important de le dire, parce que c'est quelque chose qui va sous-tendre aussi tout l'album, et qui va sous-tendre les décisions que prennent les pilotes, qui sont des décisions assez, assez inimaginables, et en même
oui,
temps,
mais,
qui vont sauver
mais,
la vie.
Mais, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cet avion, la vraie histoire de cet avion, on monte dedans, les gens pleurent, j'ai des souvenirs assez durs, on arrive au sud d'Oran. C'est la nuit. Le port d'Oran, les réserves de carburant sont en flammes parce qu'il y a eu des bombes de part, en particulier de l'OAS. Et on commence à savoir qu'à Oran, il y a des enlèvements d'Européens qui font que si, comme la tour d'Oran le souhaite, le pilote se pose, nous débarque, on ne sait pas trop ce qui va se passer, charge notre personne, nous abandonne sur l'aéroport d'Oran, là, on est paumé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on va être avec six gosses, maman et six enfants, perdus, pas que nous, hein, pas que nous, perdus au milieu d'une foule, comme on peut en voir, en panique dans ces situations-là. Ça, c'est vrai. Le pilote a tourné au-dessus d'Oran et il nous a prévenus, j'ai encore sa voix en tête, qu'il n'acceptait pas les ordres d'Oran et qu'il allait continuer directement, sans escale, bien évidemment, puisqu'il n'était pas prévu à la base, vers Marseille-Marignane, où les familles attendaient. Voilà, ça, c'est la vraie histoire de ce vol.
Ce qu'il faut dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'il faut aller voir sur Internet les photos d'Oran à cette époque, et notamment les photos des réserves de pétrole qui brûlent, parce que la ville entière est couverte par un nuage d'hydrocarbures.
Oui, je le vois. Franchement, maman m'en reparlait, parce qu'une Constellation, ça ne vole quand même pas. Et on voyait cette espèce de... Et là, dans l'avion, il y a eu un mouvement de panique. Parce que quand le pilote dit « Ah, mais Oran veut qu'on se pose », on n'était pas loin de... Bon, que les gens se rebellent, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas. Hein. On était dans un avion où les gens savaient qu'ils jouaient leur peau, quand même. D'autant que, je me reviens là-dessus, et ça, historiquement, il faut bien le rappeler, les plusieurs milliers d'Européens et de Français ont été enlevés sans que l'armée bouge. Puisqu'on a qualifié le général Katz de bourreau d'Oran à l'époque, ça c'est un fait historique, c'est facile à vérifier, et évidemment le pilote savait déjà, l'équipage savait déjà tout ça, donc n'allait pas prendre de risque. Et je crois que c'est un petit peu comme tout pilote qui a responsabilité de ses passagers, il y a une mission, et bien mon héros, si je puis dire, va l'accomplir.
Et pourquoi la tour d'Oran veut que vous vous posiez à Oran? Quel est leur plan?
On les a supposé ces plans. Lui, le pilote, nous a parlé de charger des personnes, des gens qui étaient plus ou moins prioritaires, de faire une sorte de tri, quoi, de faire une sorte de qui allait descendre, qui allait monter. Je ne sais pas si on peut imaginer en pleine nuit dans une ville à feu et à sang. Ça peut être d'abandonner 50, 60, 70 personnes et de faire monter. Il ne savait pas, en fait. Donc, il n'a pas pris le risque. Il n'a pas pris le risque de se dire je me pose et puis tranquille, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais qui fait quoi d'abord? L'armée? Les civils? Qui fait quoi?
Oui, sachant que lui-même pouvait tout à fait risquer aussi lui-même sa peau, j'imagine.
Ah, mais on aurait très bien pu lui dire, monsieur, ben, commandant, vous débarquez, votre équipage, on en met un autre. Hein, mais c'était une situation, encore une fois, on n'est pas loin de l'attentat de la fusillade de la rue Disney qui se passe quelques mois avant. Il faut quand même savoir que quand on se penche sur cette période de l'indépendance de l'Algérie, des accords d'Évian et cette espèce de montée en puissance de la, encore une fois, de la violence au bout des quelques mois, violence qui est listée, je ne dis pas le contraire, mais qui là atteint un paroxysme. Parce qu'on fait tout, finalement, pour que les pieds noirs partent. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de les rassurer, on n'essaye pas de dire que tout va bien se passer, les accords d'Évian prévoient ceci et cela, Oran aurait dû être une ville tout à fait, non pas ouverte, mais maintenant où les pieds noirs vont vous installer. Donc ça, c'est aussi une page d'histoire, de grande histoire, dans laquelle moi, j'ai inclus ma petite histoire. Mais l'histoire du vol, elle est totalement vraie. Après, le reste... Il fallait bien trouver quelques ingrédients, j'allais dire, romanesques.
Alors, c'est une petite histoire, mais c'est quand même une histoire passionnante parce que tu as réussi à raconter ce vol et donc toutes les péripéties. Je ne sais pas si on va pas toutes les raconter parce que...
Non, il ne faut pas. Ça fait pas dévoiler.
Mais en tout cas, tu as réussi à créer une sorte de thriller vraiment haletant, j'allais dire, dans un avion en vol, dans une cabine, tout est fermé. Il y a quelques personnages... Et oui. On voit cette histoire à la fois dans le regard du petit Jean-Laurent qui a donc une dizaine d'années, mais aussi dans celui des hôtesses de l'air, dans celui du pilote, dans celui d'un espion. Enfin, c'est assez bien trouvé, cette multiplicité des regards.
Mais là, il y a eu en plus un très bon travail, je crois. Évidemment, on en parlera aussi d'Olivier Mangin qui a repris le dessin de Patrick Dussomme. Moi, je voulais avoir effectivement une espèce de palette de personnages qui, grosso modo, avaient nourri mes fantasmes de lecteur de bande dessinée. C'est-à-dire que Béatrice, qui est une fille superbe, mais qui a quand même des problèmes personnels. Bon, et puis il y a aussi, je ne vais pas dévoiler tout. Enfin bon, il y a le pilote qui lui a un passé qui est un type relativement jeune, mais qui a fait la Seconde Guerre mondiale dans les bombardiers, qui ensuite a été en Indochine. Il faut bien voir le lien qu'il y a entre l'Algérie et l'Indochine, à travers tous ces gens, ces types que moi j'ai fréquentés, j'ai eu la chance de voir avec mon père, qui ont vécu ce conflit. Donc ce type-là, il va pas laisser tomber ses passagers. Il a fait déjà Dien Bien Phu une fois, il va pas recommencer. Même chose pour la chef hôtesse, qui prend énormément de place d'ailleurs auprès des lecteurs. Ça m'a stupéfait. Beaucoup, très, 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 très attachante pour eux. Parce que cette fille était convoyeuse de l'air en Indochine, c'est pareil. Donc, ses passagers, c'est comme les blessés qu'elle convoyait. Donc, le flic, lui, c'est un peu, j'allais dire, un clone de San Antonio et de... oui, mais non, alors le beau gosse qui est, politiquement très peu correct, j'allais dire, au moins, tant à ses mains baladeuses, mais quoi qu'il en soit, est macho. Mais, et puis, à côté de ça, l'espion, et puis des passagers réels, des médecins, un couple de médecins que je connaissais qui voulaient absolument revenir en Algérie, rentrer en métropole, mais revenir s'y installer pour aider les populations, ou des gens qui avaient vendu leur boutique de 3 francs 6 sous avant de partir et qui ne reviendraient jamais plus. C'est un non-retour sans retour.
En fait. Oui, parce qu'il y a des figures inventées, comme le flic, l'espion, mais il y a des vraies personnes dans ton histoire.
Il y a des vraies personnes. Béatrice de Lunac, c'est un mélange de vraies personnes. Moi, je dirais que le pilote, c'est aussi quelqu'un que j'ai pu côtoyer. L'hôtesse, j'ai une cousine très proche maintenant qui travaillait auprès de Delattre en Extrême-Orient et qui avait travaillé sur Air France, sur les longs courriers Constellation au début des années 50. Oui, il y a des vrais gens. C'est des vrais gens parce que c'est une vraie situation. Après, on va pas rentrer non plus dans je parle de l'OAS, bien évidemment, parce que l'OAS a été un des piliers de cette époque avec les attentats ensuite en métropole, puis quand même assez très violent. Après le putsch de 61 qui a beaucoup marqué l'armée française, donc il y a un type très concerné. J'ai essayé de tirer un petit peu tous les fils pour les ramener à ce huis clos dans une carlingue. Voilà. Après, c'était pas évident que je réussisse, mais bon.
Non, mais après, il y a des choses qu'on peut pas révéler parce que ce sont les moteurs de l'histoire. Mais là aussi, c'est pas des trucs d'ailleurs, mais c'est des choses qui auraient pu arriver. Voilà, des choses mécaniques, des choses humaines qui font que l'histoire avance et qu'on s'y accroche parce qu'on se dit, bon sang de bonsoir, est-ce que l'avion va finir par rallier Marseille ou est-ce qu'il va tomber dans la mer?
Alors, on se dit qu'il peut se passer des choses. Je dirais que Il y a des flashbacks aussi, dont un flashback avec la compagnie saharienne de Légion étrangère qui était basée à Colombéchard. Ce qui se passe dans ce flashback est vraiment arrivé. C'est-à-dire que est vraiment arrivé avec un... Bon, je ne vais pas non plus rentrer en détail, mais c'est vraiment arrivé. Donc, parce que, encore une fois, moi j'ai eu la chance d'être entouré de jeunes types de 25, de 30 ans, 32 ans, des officiers légion qui avaient des types qui étaient des baroudeurs, des méharistes. Des, bon, c'est, pour un enfant de 10 ans, c'était aussi un univers. Alors, on exclut le côté guerre. Hein. On n'exclut pas, mais enfin, il est là. Mais bon, c'était aussi un monde de Sahara qui était, les portes du Sahara qui étaient assez merveilleux. C'était assez. Voilà. Alors, je ne peux pas tout. Je n'aurais pas surtout spoilé, encore une fois, trop donné de.
Non, il ne faut pas.
Voilà, il ne faut pas.
C'est justement le charme des thrillers de ne pas spoiler.
Surtout et... celui-là. Bon, après, dire que l'avion. Si je suis là, c'est que l'avion il s'est posé. Mais oui, c'est ça, c'était. Bon, voilà.
Voilà. Non, mais on peut se poser la question dans quel état
la question de savoir comment il se pose.
Voilà, dans quel état il se pose. Est-ce que l'espion est arrêté? Est-ce que l'hôtesse de l'air
va se passer? Qu'est-ce qui se passe à bord? Quels sont les rôles finalement des uns et des autres? Les états d'âme? Voilà, tout ce qui fait dans une communauté enfermée dans une carlingue tout peut arriver.
Alors, il y a une autre chose dont tu me parlais au début quand on a préparé l'interview, et ça se sent dans la bande dessinée, c'est ta passion pour l'aéronautique, l'aviation. Je dois dire qu'on sent que tu aimes les avions.
Non seulement j'aime les avions, mais j'aime même les morceaux d'avion, parce que j'ai une grosse collection de toiles d'avion de la guerre 14, de mer, enfin, des avions mythiques, mais authentiques. Hein, bon. Mais j'ai aimé l'aviation très très tôt parce que, d'une part, les machines étaient des machines superbes, que j'ai eu la chance de pouvoir monter dans ces avions qui étaient des avions à hélice, même et très rapidement qui vont devenir des réacteurs. L'histoire de l'aviation m'a toujours passionné, et puis petit à petit, j'ai pu toucher du doigt, c'est-à-dire que je suis un passionné d'histoire contemporaine, donc ça c'est évident. Très tôt, que ce soit le premier conflit mondial, le second conflit mondial, les guerres qu'on appelle coloniales, avec l'Indochine pour laquelle j'ai travaillé beaucoup avec le musée de l'armée et les Invalides, parce que j'avais une très grosse collection que je leur ai cédée ou donnée. L'avion, c'est merveilleux parce que en plus j'avais la chance, moi avec mon père pilote, d'aller le jeudi jouer dans les avions à Béchard. C'est-à-dire que je montais dans les avions, je faisais Bulle d'Annie avec mon manche à balai, je mettais le casque. J'ai une photo, je ne suis pas mis dans l'avion, mais j'ai vu des mirages, j'ai pu monter dans des trucs absolument incroyables, quoi, et vu des choses absolument incroyables. Donc, toucher du doigt, finalement, l'univers de Bulle d'Annie qui était venu à moi. Voilà. Je sais que mon père avait un pilote de chasse, un copain qui pilotait un Aquilon, une espèce d'avion avec double empennage à l'arrière. Ben voilà, je suis monté dans les Fougas, bon, je suis monté dans les Dakota, je suis monté dans le Brigue de Pont, tout ce qui a pu voler. Pas le Junker, je crois, mais non, jamais le Junker, pas en vol du moins. Nord Atlas, on est revenu avec maman et mes frères et sœurs dans un Nord Atlas civil, enfin militaire civil, avec des rangées de sièges dans un bouton infernal. Ce zingue, on avait fait Oran Colombéchard. Bon, voilà, oui, j'ai eu cette chance-là, oui, c'est vrai, c'est une passion, hein, c'est toujours une passion. Mais l'hélice, encore une fois, le réacteur, bon, j'ai pris la première caravelle en 61. Et là, avec mes frères, on a été stupéfaits parce qu'on avait l'habitude de décoller doucement, tranquillement. Et d'un seul coup, il a cabré le pilote donc, de la caravelle, cette première caravelle, a cabré. Et avec mes frères, on s'est retrouvés en arrière, on était tout à fait devant. On s'est dit, bon, du tout, c'est curieux. Comme c'est bizarre. Voilà. Donc oui, c'est vrai. C'est une passion, c'est une belle passion, l'aviation. Et ce sont des gens passionnants, de toute façon.
On a presque fini de parler de l'album, mais il faut qu'on parle d'un autre personnage qui est très important dans l'histoire de cet album, c'est le dessinateur Patrick Jussaume.
Oui.
Donc, tu lui rends hommage au début et à la fin de l'album. Est-ce que tu peux à la fois nous parler un peu de lui, de son travail et de l'importance qu'il a pour la création, pour l'existence de cet album Non-Retour ?
Je crois que j'ai commencé par là, en fait. Enfin, parce que moi, quand je raconte, on marchait sur l'Aubrac, hein, parce qu'on faisait des randonnées, on y allait chaque année, une fois ou deux fois. Et puis, on se racontait nos vies, je l'explique dans la postface. Et puis, je raconte à Patrick notre retour. Et il me dit, tu sais, franchement, c'est une histoire pas banale, tu devrais en faire un scénario. je dis, écoute, Patrick, faire un scénario, t'es gentil, mais moi je suis journaliste, hein, scénario. Bon, d'accord, j'ai celui de Schoenberger, il y a une fois, j'ai quelques trucs, j'avais lu, j'avais adoré le scénario à traverser de Paris parce que je trouvais que c'était écrit d'une façon superbe. Il me dit, écoute, si tu fais un scénario, moi je dessine l'album. Ah, je dis, là, ton grand, c'est un autre débat. Parce que je sais comment il travaillait, je le suivais depuis 20 ans, on était vraiment très proches, il était à Montpellier, moi aussi. Alors je m'y suis mis, j'ai commencé par faire un synopsis, par faire des fiches de personnages, faire une sorte de maquette de l'avion, le lui soumettre, j'ai échangé avec lui, bon, j'ai échangé, on discutait. Je me suis mis à écrire et petit à petit à lui envoyer les scènes, puisqu'en fait, et les pages, puisque c'est lui qui allait le dessiner, ce qui n'était pas neutre. Parce qu'il faut quand même savoir que Patrick, donc, avec la série Trempe, et c'est une des meilleures séries maritimes, c'est la meilleure du genre depuis maintenant des années, il y avait La Maison de Cléon, enfin, c'est un dessinateur hors pair, c'est un type qui avait une intuition dans le dessin, un génie, un talent, un type qui savait comment dire, utiliser les couleurs en couleurs directes comme personne. Et puis c'est un type en plus, Patrick est une telle gentillesse, une telle simplicité. Bon, voilà, c'est pas raconter ma vie, hein, c'est un ami qui me manque beaucoup. Et donc on s'y attelle, sauf qu'il y avait deux choses. Un, il fallait qu'il finisse 30, au fur et à mesure. C'est pas 30. Deux, il est tombé malade très gravement, s'est remis, bien remis. Et donc, il a commencé à faire des travaux préparatoires pour Non-Retour, qu'on voit en fin d'album. Il s'est attaqué aux planches, au crayon et des planches. Puis il m'a dit, tu sais, tu me donnes l'occasion peut-être de me renouveler. C'est-à-dire que cet album, hormis le fait que je pense, et il me l'a dit, que c'était une bonne histoire, avec ce qu'on a pu, j'ai pu y ajouter après, parce que il a plus lu, ça va me permettre de revoir mon dessin. Ah bon ? C'est-à-dire, bah écoute, j'ai envie d'ancrer différemment, j'ai envie, non pas de me détacher de Trempe, mais j'ai envie d'envisager autre chose, de faire un petit peu autre chose. Et avec Non-Retour, je vais pouvoir le faire. Dans la vie, on fait malheureusement pas toujours ce qu'on veut. Retomber malade, et puis voilà. Mais moi, à chaque fois qu'il faisait un Trempe, depuis des années, j'avais la priorité des planches. il partait avec. Ouais, bon, moi j'avais, voilà, je pouvais voir. J'allais chez lui, puis on discutait, puis on regardait ce qu'il avait fait, il me demandait ce qu'il en pense. Bon, j'ai eu cette grande chance. Et pour Non-Retour, donc notre album, parce que je pense que c'est notre album, et que sans lui cet album n'aurait pas vu le jour, sans compter peut-être les aides extérieures que j'ai pu avoir, la confiance des miens, ça c'est autre chose. S'il n'avait pas été là, oui, voilà. C'est pas évident, hein. C'est un challenge assez étonnant. Puis après, c'était qui allait l'éditer. Et Patrick, là-dessus aussi, j'ai eu la grande chance qu'il soit ce grand dessinateur. Ça a été aussi beaucoup plus simple avec Osterman. Philippe Osterman avait beaucoup aimé l'histoire. Monsieur Lardot, ça je reconnais. Le Besplon aussi, François Le Besplon. Donc voilà, moi j'ai livré le scénario clé en main. Mais alors Patrick, il était fabuleux pour ça, parce que Patrick, on savait le scénario, il faisait les planches. Bon, ah bon, alors c'est bon alors, hein. Je suis doué alors. Hein. Oui, mais bon, peut-être ça, c'est. Mais toujours d'une telle délicatesse, d'une gentillesse que tu avais l'impression de maîtriser le sujet totalement.
Alors, comment s'est passée la suite? Parce que donc Patrick est décédé, donc il a fallu quand même trouver un dessinateur pour aller au bout, parce qu'il fallait quand même que cet album sorte pour toutes ces raisons. Comment s'est passée l'arrivée du deuxième dessinateur, Olivier Mangin, dans ses pas de Patrick Jussaume?
Alors, d'abord, il y a eu Evelyne Jussaume, à qui j'aimerais aussi rendre hommage, qui a tenu absolument, avec Audrey, sa fille, à ce que cet album voit le jour. Et qui voit le jour de deux façons, en racontant mon histoire et en racontant notre histoire, c'est-à-dire celle de Patrick et de moi, à travers les planches qu'on publie en fin de Patrick, ou les travaux préparatoires, et de la postface où j'explique un peu la genèse du tout. À partir de là, il a fallu donc trouver effectivement, comme tu le disais, un dessinateur. Moi, j'en avais un ou deux. Bon, c'est pas évident, hein, parce que il y a un qui n'était pas libre ou qui ne voulait désormais que travailler sur ses propres scénarios. Et j'avais rencontré au Salon du Livre pour une interview, voilà, professionnelle, Olivier Mangin, tant qu'il faisait La Guerre des Amants avec Jacques Magny. Et j'avais été séduit par le trait. J'ai proposé à. Alors, j'en ai parlé à Chantal Chaillet, que je connais bien, la femme de Gilles, qui avait travaillé avec lui aussi. François Lebescon a été aussi OK, l'a contacté. Et on s'est retrouvé à Paris avec Olivier Mangin, tous les deux, pour voir comment le bébé allait finalement pouvoir naître. Alors, c'est vrai que c'est pas simple, parce que c'est surtout pas simple pour lui. Moi, je lui suis très reconnaissant de s'être non pas glissé dans les pas de Patrick, mais d'avoir su garder, il l'a voulu, les couleurs, par exemple, ou certains découpages, les angles, tout en gardant sa propre originalité et ses propres qualités graphiques de mise en valeur du texte, revenant, travaillant avec moi aussi sur certaines répliques ou sur certains textes. Voilà, on a eu un travail très intense, mais encore une fois, tout à fait différent de ce que on avait vécu avec Patrick. C'est clair que... Et ce qui m'a le plus, là, je le dis maintenant, mais touché avec Patrick, c'est qu'il m'a dit, pas très longtemps, malheureusement, avant de nous quitter, je finirai pas l'album. Et il m'a dit, tu devrais trouver un dessinateur parce que je ne finirai pas l'album. Ça voulait tout dire, quoi. Hein. Donc, je crois que Olivier a très, très bien su, parce que aussi bien la cour que tout le reste, hein, les scènes intérieures, les personnages. Il s'est basé sur les premières planches faites par Patrick. Hein, d'accord.
Oui, parce qu'on voit à la fin, il y a un cahier graphique avec quelques planches et toutes les recherches de personnages. Et Olivier a vraiment repris les caractéristiques qui avaient été créées par Patrick Jussaume.
Voilà,
mais il les a vraiment repris, c'est pas à sa sauce, c'est pas le mot, mais...
Propre coup de crayon et son propre talent, c'est tout. Ce qui n'est pas rien, mais c'est vrai que... Ça a été un travail qui nous a fait quand même là presque 2 ans pour tout conclure et pour faire aussi le point avec Dargaud, qui s'est montré un interlocuteur tout à fait chaleureux et fiable. Ce n'était pas toujours le cas dans le domaine. Mais je crois que tout le monde avait envie que ce soit à la fois qu'on voit le nom de Jussaume à la une, sur la couve. Et que ce soit, encore une fois, un peu le dernier album de Patrick Jussaume.
Pour finir sur une note un peu plus légère, je me demandais qu'est-ce que ça fait de se voir dans une bande dessinée et de voir sa vie dessinée comme ça, à la fois racontée par soi-même, mais dessinée par quelqu'un d'autre.
C'est schizophrénique, c'est-à-dire que, en fait, oui, c'est un petit peu l'intervieweur interviewé, c'est un peu... Alors oui, c'est moi, c'est beaucoup de moi, hein. Sincèrement, c'est beaucoup de moi. C'est une sensation assez curieuse, qui ne peut être qu'unique, c'est-à-dire que je peux pas dire demain, je vais faire la suite, un an après, après un an après, j'en sais rien, moi. Encore que bon, je vais pas en dire plus, mais c'est un an après, il pourrait se passer des choses, mais sans que j'y sois. Voilà. Non, c'est une sensation... agréable. Je rends aussi hommage quand même à mes frères et mes sœurs, parce que on va pas épiloguer très longtemps, mais j'ai malheureusement perdu bon nombre d'entre eux, même en étant l'aîné, mais pour des raisons diverses, la vie, voilà. On se voit un peu comme dans un miroir, sauf qu'on a passé, on est passé à travers le miroir. On se raconte, c'est une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'en fait. On se parle à soi-même, presque. Ah, tu fais ça. Quand on fait le scénario, oui, je suis presque là à me dire, mais attends, c'est moi, c'est les dialogues, c'est moi qui parle. Non, c'est rigolo, voilà. C'est pas non plus, c'est pas une épreuve. Mais moi, j'ai été très content de la réception de l'album et très content aussi que cet album, soit là aujourd'hui. Voilà, c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur aussi. Hein. C'est honoré qu'on m'achète.
Jean-Laurent, je te remercie de ces minutes passées avec moi pour parler de Non-Retour. Donc, je redis encore une fois, le titre, c'est Non-Retour. Les dessinateurs, c'est Patrick Jussaume et Olivier Mangin. Jean-Laurent Truc, c'est toi, tu étais au scénario. Et c'est publié par les éditions Dargaud et c'est au prix de 15 euros. Et on le trouve dans toutes les bonnes librairie, spécialisée et non spécialisée. Je te remercie et je te dis à bientôt.
C'est moi qui te remercie, puis évidemment, à très très vite. Au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.